It's Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons en Italie où depuis 15 heures, le processus d'élection du nouveau président a commencé. Vous allez découvrir ce système très étonnant sur la forme. Et sur le fond, que se passe-t-il à la tête du gouvernement si Mario Draghi devenait président? Il y a encore des si. On en discute avec l'invité d'Un jour dans le monde, c'est dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir s'appelle Électeurs d'ailleurs, régulièrement le lundi et jusqu'au présidentiel. Des électeurs partout dans le monde vont partager leurs élections en envoyant des notes vocales à Caroline Gillet depuis leur portable. Ce soir, vous ferez connaissance avec Christina, elle est au Costa Rica. Le bruit du monde, la suite, sous les radars Sébastien Le Génie a trouvé 125 employés de l'église catholique allemande qui font leur coming out. L'affaire Peng Shuai qui rebondit à l'Open d'Australie et la Tanzanie qui est en train de devenir un paradis pour anti-vax. 18h50, le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour qui nous emmène dans les frictions entre les USA et la Russie sur l'Ukraine. Un petit peu de Super Bowl aussi et un Kennedy, vous allez l'entendre, qui fait parler de lui. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, le retour du groupe État islamique en Syrie, les attaques de prison. Est-ce qu'on fait semblant de ne pas savoir ce que ça veut dire? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Giuliano D'Ampoli.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, ancien conseiller politique de Matteo Renzi. On va rejoindre dans un tout petit instant Bruce de Galzin, qui est le correspondant de France Inter à Rome, bien sûr. Le vote pour succéder au président de la République, Giuliano D'Ampoli, a commencé donc en Italie. C'est un long processus. On va expliquer aux gens d'ailleurs comment ça fonctionne. Mais d'abord, puisque c'est le président du Conseil dont on parle le plus souvent, à quoi ça sert un président italien ?
En théorie, c'est une figure de, comme ça, de représentation et d'unité. Donc, quelqu'un qui n'a pas véritablement de pouvoir, mais qui est quand même le chef de l'État et qui représente l'unité de l'État italien. Dans la réalité, au cours au moins du dernier quart de siècle, le président de la République est devenu un acteur politique de tout premier plan, peut-être même le plus important en Italie. C'est lui qui nomme le Premier ministre et c'est lui qui dissout le Parlement. Donc, dans une situation où la politique et les partis politiques sont forts, il n'a pas beaucoup de discrétionnalité. Mmh. Il doit simplement faire ce que les électeurs demandent dans les élections et que les chefs des partis lui imposent après. Mais dans une situation où les partis sont affaiblis et les résultats des élections ne sont pas toujours univoques, sa marge de manœuvre est devenue considérable.
Il peut même refuser des ministres, on l'a découvert, nous, parce que Mattarella l'a fait, notamment avec un eurosceptique, donc il a aussi ce pouvoir-là, et c'est important.
Tout à fait, c'est lui formellement qui nomme le gouvernement, et les ministres sont nommés par lui aussi, donc il a la possibilité, encore une fois, en face d'un Premier ministre fort, qui a une investiture, disons, du Parlement avec une large majorité, sa marge de manœuvre, même sur la nomination des ministres, est basse. Mais face à un Premier ministre faible, qui n'a pas une vraie majorité au Parlement, ses pouvoirs deviennent tout à fait considérables.
Ça veut dire qu'il faut un homme à l'épaisseur politique incontestable, ou est-ce qu'on dit plutôt que désormais, il faut un homme à une épaisseur politique incontestable ou pas ?
Oui, après, dans l'histoire politique italienne, des leaders politiques de premier plan n'ont jamais été élu président, parce que on dit toujours qu'il faut pour ce rôle-là une figure qui soit un peu au-dessus des partis, donc quelqu'un qui puisse justement rassembler de façon très large. Donc il faut évidemment quelqu'un qui soit un connaisseur très profond, avec une grande expérience du système politique italien, mais en même temps, si possible, quelqu'un qui ne soit pas trop divisif. Donc, pas nécessairement un leader politique.
Et alors, juste avant de rejoindre Bruce de Galzin, qui va nous donner quelques détails sur la manière dont ça se passe en ce moment, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas de candidat officiel. En fait, réellement, donc on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui le sont. On savait que Berlusconi l'était, il l'avait fait savoir, il s'est retiré juste avant que ne commence le vote. Mais pas de candidat officiel, ça veut dire pas de campagne non plus.
Non, c'est un processus assez byzantin. Ça ressemble un peu, si vous voyez ce que je veux dire, à l'élection du pape dans un conclave.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un vrai conclave. Ouais.
Donc, c'est des grands électeurs qui se réunissent. Le vote est secret. Et donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de véritable campagne électorale. Tout se joue un peu dans les corridors et justement.
C'est vraiment un conclave.
Tout à fait.
Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de fumée blanche à la fin.
Exactement.
Ou quasiment. Vous avez parlé des grands électeurs. Pour ceux qui nous écoutent, il y en a 1009 qui sont députés, qui sont sénateurs, qui sont aussi délégués des régions. Bonsoir, Bruce de Galzin.
Bonsoir.
Il faut nous éclairer un petit peu dans ce processus avant qu'on revienne à la pure politique. Je le disais, c'est une élection qui est assez complexe, c'est un jeu tactique, c'est un jeu stratégique. On le disait à l'instant, il n'y a pas de candidat, tout est très codifié, tout est même secret dans cette élection.
Oui, tout le monde parle le compare à un conclave. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les conclaves, justement, ils avaient lieu dans la chapelle Pauline du palais du Quirinal, qui est aujourd'hui le palais du président de la République. Voilà, exactement. Mais il y a plein d'analogies entre les deux élections. On l'a dit, notamment le vote à bulletin secret. Alors, il a démarré, en effet, il y a un peu plus de 3 heures dans la Chambre des députés. Je vous décris un peu l'ambiance, parce que à la place des isoloirs, en bas de l'hémicycle, il y a 3 sortes de tunnels, en fait. Les grands électeurs entrent avec un papier et un crayon et sortent de l'autre côté pour déposer leur bulletin dans l'urne. Alors c'est les sénateurs à vie qui ont voté les premiers. Certains sont âgés, donc certains sont venus en fauteuil roulant. D'autres sénateurs sont arrivés après avec une canne. Bon, ça s'enchaîne et ça va durer. Bah certains évoquent 5 heures, hein, parce qu'après il faudra dépouiller ce soir sans doute. Il y a même une autre spécificité de ce scrutin. Il y a une tente spéciale sur le parking du Parlement pour les grands électeurs positifs au Covid ou qui sont en quarantaine. On l'a surnommé le driving. Hein. On a vu arriver de grands électeurs même en ambulance, hein, et ils votent donc dehors. Le vote est secret, on l'a dit. Il y a un seul tour par jour en raison du Covid, alors que pour un conclave, normalement, on vote 4 fois par jour. Hein, ouais. Et puis depuis 200 ans, il n'y a même pas eu de conclave qui ont duré plus de 5 jours. Là, on imagine qu'il va y avoir une durée un peu plus importante. Hein. Certains évoquent une semaine, peut-être au-delà, parce que d'abord, il faut une majorité aux 2/3, donc c'est quand même très compliqué. Et à partir de jeudi, il faudra 50% de la majorité absolue. Donc voilà, les tractations politiques, vous l'avez dit, les intrigues même vont vraiment se poursuivre encore quelques jours.
Alors dites-nous quand même en quelques mots pourquoi les partis ne sont pas capables de s'entendre, en tout cas jusque-là, on va dire.
D'abord, bon, c'est compliqué de s'entendre à 1000, ça c'est sûr, mais
1009.
Mais c'est vrai qu'on se dit ici que les partis auraient pu faire des propositions avant, et c'est encore très vague. Hein. Aujourd'hui, lors de ce premier scrutin, la plupart ont déjà dit qu'ils voteraient blanc. Ça veut dire qu'on réfléchit, c'est très bien, mais ça veut dire aussi que c'est le flou et que les chefs de parti qui multiplient les rencontres ont quand même du mal à s'entendre, même s'ils se parlent. Alors, il y a la droite qui assure qu'elle va proposer sa propre liste parce qu'elle estime avoir la majorité, ce qui est à peu près vrai, mais les chiffres sont quand même très proches. Et puis la gauche, elle semble pas avoir d'idées très claires, excepté Mario Draghi ou le renouvellement du président sortant. Mais c'est vrai que les partis sont assez faibles en ce moment. Giuliano Lampoli l'a évoqué, je crois, mais dans les sondages, il y a 3 partis autour de 20%, la Ligue, Fratelli d'Italia, le Parti démocrate, il y a 15% à peu près pour les 5 étoiles. Les 5 étoiles qui sont pourtant le parti qui a le plus grand nombre d'électeurs, mais qui est le parti le plus divisé, le Parti démocrate qui a du mal donc à proposer des noms, on l'a dit. Depuis que Berlusconi s'est finalement retiré, Salvini reprend la main, mais il s'oppose à Giorgia Meloni qui, elle, veut des élections anticipées. Et ça, c'est un point assez important. Là, c'est un peu vénal, mais c'est ce qui va pas arriver, hein, les élections anticipées, parce que il y a des choses assez concrètes. Si on vote demain, il y a 345 députés qui perdent leur travail, hein, puisque on va passer de 945 à 600 députés. Et puis si on vote avant le mois de septembre, il y a beaucoup de députés qui vont aussi perdre leur retraite. Donc là, je crois que on peut s'accorder sur ce point, mais je vais insister sur un autre point qui est peut-être plus important, Fabienne. Il y a un aspect de cette législature qui est assez exceptionnel depuis 2018. C'est la première fois qu'on n'a jamais eu de politique à la tête du gouvernement. Giuseppe Conte n'était pas politique et Draghi n'est pas politique. Donc on peut se demander si des politiques ont pas envie de reprendre la main aussi cette fois-ci, mais c'est encore l'histoire de l'instabilité chronique de la politique.
Alors on va y venir justement. Giuliano Lampoli, la candidature de Mario Draghi, alors candidature putative, enfin je sais pas très bien comment on dit, puisqu'on sait qu'il l'est plus ou moins, mais en même temps sans jamais le dire et sans jamais l'avouer. Est-ce que c'est parce que la parenthèse enchantée, en quelque sorte, qu'il l'a vécu lui à la tête du Conseil est close, donc il cherche une nouvelle étape. Et de toute façon, il faut effectivement passer à une autre étape qui sera une étape plus politique. Est-ce qu'il se brûle une vraie cartouche? Est-ce qu'il met en danger le Conseil, Mario Draghi? Comment vous voyez ça, vous?
Je pense que c'est très délicat, en effet. Il y a plusieurs écoles de pensée sur ça. Il y en a une, justement, qui pense que c'est une défaite, parce que ça voudrait dire que cette expérience, effectivement, du gouvernement Draghi va se conclure. Et donc, il y aura, d'une façon ou d'une autre, une marche vers les élections qui pourrait, en effet, prendre une année, parce qu'elles sont prévues l'année prochaine, mais en descendant. Et donc, que ces élections seront probablement gagnées de toute façon par des nationaux populistes comme justement Salvini ou Giorgia Meloni, et que donc avoir quelqu'un comme Draghi dans un rôle de garantie pendant 7 ans, plus un des seuls ou peut-être le seul poste de la politique italienne qui est stable, qui ne change pas, c'est effectivement un peu une garantie pour tout le système et même d'une certaine façon pour l'économie. Mais en même temps, on ne gouverne pas du palais du Quirinale. Et donc,
on ne tire même pas les ficelles, en fait.
On ne tire que les ficelles qu'en moment de crise, justement. Donc c'est vrai que je pense, d'un certain point de vue, l'élection possible de Draghi marquerait un tout petit peu quand même la défaite de cette expérience qui est en cours depuis un peu plus qu'une année.
Un peu plus d'un an, mais justement, quand je vous écoute, je me dis qu'il y va parce qu'il sait de toute façon qu'en 2023, on risque de voir revenir ce qu'a été la vague populiste italienne qui a été stoppée avec Draghi, donc il préfère pas être là, en tout cas pas être à la tête du Conseil au moment où cette vague arrêtera. Est-ce que je me trompe?
Oui, mais je pense que c'est une explication tout à fait plausible. Bon, il peut y en avoir plusieurs, même de nature personnelle. C'est un homme qui arrive à la fin de sa carrière. Et on l'a vu dans le cas de Berlusconi, qui a tout eu dans sa vie personnelle et politique, mais qui a quand même beaucoup désiré et cru pendant un moment avoir une chance de devenir président de la République. Donc il y a des ambitions personnelles aussi. Mais encore une fois, je pense que vous avez raison. L'idée de voir Draghi élu aujourd'hui à la présidence de la République, c'est surtout les gens qui sont pessimistes, y compris peut-être Draghi lui-même, qui veulent ça, parce que il considère justement que cette parenthèse enchantée, comme vous l'avez définie, va se clore et qu'on reviendra au système chaotique et avec des poussées nationales populistes très fortes à partir de 2023.
Est-ce que ça veut dire que aussi, c'est un peu ce que disait Bruce entre les lignes à l'instant, que de toute façon, il faut que la politique reprenne ses droits, quelle que soit la couleur de cette politique-là. Cette fameuse parenthèse était une vraie parenthèse technique, en fait. Un technocrate à la tête de l'État, comme ça on remet les choses en place, ce qui a été fait d'ailleurs à certains égards, notamment d'ailleurs vis-à-vis de l'Europe, peut-être qu'on y viendra. Donc il faut de toute façon, en Italie, que les partis reprennent leurs droits, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir, et notamment une forme d'instabilité.
Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, justement, ça aura lieu de toute façon au cours des élections législatives du printemps 2023. Mais on voit bien quand même là que le système politique italien est construit quand même sur plusieurs jambes. C'est la constitution de l'après-guerre qui a prévu ça. Et donc, ce rôle du président de la République qui prend l'initiative de constituer des gouvernements avec des figures qu'il prend quelquefois justement de milieux technocratiques, mais qui après quand même sont soutenus par le Parlement. Par exemple, Draghi a non seulement une majorité parlementaire très large, mais des ministres qui sont des politiques, ce ne sont pas des technocrates. Enfin, c'est un mix des deux, il y a des technocrates et des politiques. Ça fait partie aussi du fonctionnement du système politique italien, qui est un système parlementaire très compliqué à comprendre. On dit souvent très instable, probable, parce que c'est vrai que la durée moyenne de vie de chaque gouvernement est très basse, autour de un peu plus qu'une année en moyenne, mais en même temps avec une stabilité démocratique remarquable quand même. Et ça vient justement de cette interaction de plusieurs composantes qui sont au fond toutes politiques et toutes démocratiques.
Il y a, Junio D'Ampolo, il y a une autre théorie qu'on lit ici et là qui dit que les grands électeurs peuvent choisir de ne pas choisir et d'imaginer que Mattarella fera un an de plus, en fait. Ça s'est déjà produit dans la démocratie italienne, de dire au président, pousse encore un an, et puis derrière, ensuite, on verra. Est-ce que ça vous semble possible, crédible?
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Si vous me demandiez un pronostic, ce serait probablement d'ailleurs plutôt celui-là. C'est-à-dire que, vu que ce gouvernement en place, donc le gouvernement Draghi, a été nommé et créé par le président de la République, et d'une certaine façon sa survivance dépend vraiment de cette élection. La seule façon de ne pas perturber la vie de ce gouvernement, c'est de ne rien changer dans l'équilibre en place. Et la seule façon de faire ça, c'est de réélire Mattarella. Évidemment, la Constitution ne prévoit pas une réélection pour seulement une année, donc ce serait une réélection pour 7 ans, et après ce serait remis à la sensibilité du président et évidemment de remettre son mandat plus tôt.
Bruce disait tout à l'heure que ça pouvait durer un certain temps. Il y a un record dans l'histoire italienne qui doit être de 21 tours, je crois, peut-être même un peu plus. Est-ce qu'on sait d'avance effectivement qu'il y aura beaucoup de tours, que ça prendra beaucoup de temps cette élection par les grands électeurs ou pas?
Je pense que soit il y a une convergence sur Draghi qui se fait assez rapidement, et donc il y a un accord sur la continuation avec cette majorité d'un gouvernement avec Draghi à sa tête, si on trouve un autre personnage pour la présidence, ou sans Draghi, avec Draghi élu président, si on trouve un autre personnage qui soit Premier ministre. Et donc là, ce sera assez rapide. Ça pourrait être la fin de cette semaine ou le début de la prochaine. Sinon, ça risque effectivement de prendre pas mal de temps en plus.
On a entendu un vote par jour avant la fumée blanche. Donc, Giuliano D'Ampoli, merci beaucoup. Merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde. On salue Bruce de Galzin aussi.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
La suite ce soir, c'est un nouveau rendez-vous électeur d'ailleurs, avec des électeurs partout dans le monde qui envoient depuis leur portable des notes vocales à Caroline Gillet. Vous découvrirez ce soir Christina qui est au Costa Rica et qui raconte son élection. Les rendez-vous d'Un jour dans le monde jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
Nous irons à l'Open d'Australie où les organisateurs du tournoi de tennis interdisent les t-shirts en soutien à la chinoise Feng Shui.
L'Amérique de Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. La Maison-Blanche réfléchit à envoyer des troupes en Ukraine, en Europe de l'Est. Biden en discute en visio ce soir avec ses alliés européens.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. L'État islamique est de retour en Syrie. Daesh vient d'attaquer un camp de djihadistes pour les libérer. Et malheureusement, tout cela était très prévisible.
A tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait une petite escale avec les Gabriels. Blame sur France Inter. A tout de suite.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I want.
not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
On est lundi dans Un jour dans le monde et Caroline Gillet a reçu des notes vocales. Électeur d'ailleurs, c'est un rendez-vous qui est pris le lundi régulièrement jusqu'au premier tour des élections et même au-delà dans des pays qui votent aussi grâce à vous. Caroline Gillet, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Grâce à vous et surtout grâce aux notes vocales donc que des gens envoient depuis leur téléphone portable pour nous raconter leur pays et aussi leur vote.
C'est ça, on ne sera pas les seuls à voter dans les prochains mois. On va entendre ici des personnes qui vont se rendre aux urnes entre février et juin à l'occasion de scrutins directs organisés dans leurs 8 pays. On sera notamment en Serbie, en Colombie, en Autriche, aux Philippines et mon petit préféré au Timor oriental. Je vais essayer de trouver des témoins qui ont aussi un pied en France pour leur demander comment ils observent de chez eux notre campagne à nous.
Alors, pour commencer, en tout cas, nous allons au Costa Rica. Voici Christina, elle a 35 ans.
Oui, c'est ça. Et elle, son pied en France, elle l'a par le biais de son mari qui est français. Et elle dit que c'est étonnant parce que cette année, donc pour la première fois, ils vivent des campagnes électorales dans leurs pays respectifs en même temps. Et avant de l'entendre, Christina, voilà quelques mots sur elle. Elle était, quand elle était étudiante, elle était très impliquée dans les manifs de gauche au Costa Rica. Elle est venue à Toulouse faire une thèse sur les inégalités socio-économiques face à la santé publique. C'est là qu'elle a rencontré son amoureux. Ils sont rentrés vivre ensemble au Costa Rica, à San José, où ils ont eu deux enfants. Voilà tout ce que je savais, moi, comme vous maintenant, sur Christina quand j'ai reçu sa toute première note vocale. Je connaissais ni sa voix, ni son environnement sonore. Alors c'est toujours la surprise, les tout premiers messages. Et le sien, je l'ai reçu en fin de journée ici, au lever du jour pour elle.
Bon, ben... Il est 5h30 du matin. Je me prépare pour partir travailler. Je commence à travailler à 7h du matin. En général, je prends un petit déj qui est assez, assez costaud, comme font les costariciens. Là, je vais manger des œufs. Coucou.
Alors Christina me dit qu'elle a vu une étude qui disait que les costariciens se lèvent en moyenne à 5h du matin. C'est une des populations les plus lève-tôt au monde. Mais peut-être que vous aussi, ce que vous retenez surtout de cette toute première plongée sonore, c'est le bruit en arrière-plan, ce son d'oiseau incroyable. Et on y reviendra. Christina, en attendant, est montée dans sa voiture, elle a allumé la radio et ça parle d'élection évidemment.
Radio Monumental, en toute sa histoire, le accompagnons en un nouveau processus électoral.
Alors, au Costa Rica, le premier tour, ce sera donc le 3 février, c'est Caroline, ça. Le second au mois d'avril. Et le système électoral costaricien est très très fascinant.
C'est ça, les élections là-bas, c'est tous les 4 ans. Le vote est en théorie obligatoire, mais l'abstention tourne autour de 30%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tribunal suprême des élections pour lutter contre la corruption. Ce tribunal, il convoque, il organise et il surveille les élections. Et aussi, les quotas, depuis 2009, 50% des candidatures doivent être portées par des femmes. Et elles doivent être placées sur les listes à des postes aussi importants que les hommes. Le Costa Rica est aujourd'hui le 18e pays le plus démocratique du monde. Pour info, la France est 24e. Mmh. Et d'ailleurs, pas de risque de coup d'État puisqu'il n'y a pas d'armée. Ça a été inscrit dans la Constitution comme toute première mesure symbolique après l'instauration de la démocratie en 1948.
Là, je suis sur la voie principale de mon canton. J'habite à San José, au canton de Curridabat. Je vois des énormes panneaux publicitaires pour les trois principaux candidats, enfin les candidats qui ont le plus de financement pour la campagne en tout cas. Donc on a 25 candidats présidentiels cette année. On pourrait dire que c'est génial et que c'est une opportunité de démocratie. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de diversité. Je pense que sur les 25 candidatures, en soi, il n'y a que deux partis qui sont de gauche. Oh là là, il y a le train qui passe. Il fait un bruit d'enfer, c'est un train qui est super vieux.
Oh là là, comme elle dit.
Oui, voilà, les transports en commun. C'est à regret que Christina nous parle ce matin-là depuis sa voiture. Elle aimerait plus de bus et de trains comme en France. Au Costa Rica, je ne le savais pas, mais 99% de l'énergie produite et consommée est issue de ressources renouvelables, hydroélectriques, éolien, géothermie. Mais il y a d'autres problèmes écologiques, à part le manque de transports en commun, et pas assez de débats sur le sujet, selon Christina.
Au Costa Rica, on consomme beaucoup du riz et des haricots, et il y a une partie du riz qui est importée de la Chine. Or, nos producteurs peuvent très bien le produire pour la consommation locale. Donc c'est sans ce genre de discussion que je trouve qu'en France, on réussit à en avoir plus profondément de comment sortir du nucléaire, par exemple. Nous, il faut qu'on se pose des questions sur l'impact du changement climatique à cause des ouragans, à cause des remontées des eaux. C'est un pays qui a des océans de des côtés. Et donc voilà, ce sont aussi des ressources qu'on n'a pas forcément en cas d'urgence pour pouvoir permettre aux populations à s'adapter au mieux au changement climatique.
Alors ça y est, Christina arrive à la fac, elle enseigne l'épidémiologie, pourtant c'est un sujet d'actualité à la fac dentaire au Costa Rica. Quand elle arrive, donc ce jour-là, il est 6h55 seulement, il y a déjà quelqu'un qui tond la pelouse, qu'on entend là, et première étape pour elle et ses collègues, se laver les mains.
Donc après se laver les mains, on rentre dans le bâtiment, ils nous prennent la température. On change le masque de l'extérieur pour un masque chirurgical intérieur. On se désinfecte les mains avec de l'alcool. Et là, on peut rentrer.
Buenos días, don Germán.
Buenos días, doctorcita. Gusto saludar a la doctora.
Igualmente. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Bien, está?
Bien, adiós.
Mais un des sujets que je trouve assez étonnant et qui différencie, je crois, un peu les campagnes présidentielles françaises et costariciennes, c'est le sujet de l'immigration. Bah, par exemple, ça a été une question au Costa Rica aussi, l'immigration, mais pas pour cette élection présidentielle. Et je crois que c'est en rapport avec le fait que pendant la pandémie, pendant une période, on a fermé les frontières et il y a certains secteurs qui ont eu vraiment des problématiques pour pouvoir assurer leur production sans la main-d'œuvre des personnes immigrées. Par exemple, la période de la collecte de café, ça c'est 95% de la main-d'œuvre immigrée. Et donc en fait, je crois que c'est aussi par rapport à ça qu'on n'a pas trop touché ce sujet. Et on a des différences aussi par rapport à la conception de ce que c'est un immigré. Au Costa Rica, il y a à peu près 10% de la population qui est immigrée. Et donc tous ces débats sur le grand remplacement, je dois avouer que je le comprends pas très bien. Et je le vois ici, en fait, au Costa Rica, nous, on a des populations migrantes du Nicaragua, du Venezuela, de la Colombie. Peut-être c'est pas tout à fait pareil parce qu'on est tous latino-américains et puis peut-être qu'on partage une culture et c'est sûrement différent en France alors. Mais en fait, je me rappelle qu'un historien costaricien disait, bah, de toute façon, si au Costa Rica on commence à secouer l'arbre généalogique des personnes, il y aura toujours des migrants qui vont tomber.
Parlant d'arbres qu'on secoue, on entendait un oiseau au tout début de cette chronique. Ah oui, bah non, alors ça c'est un autre, parce qu'elle n'a pas retrouvé celui-là qui était l'emblème du Costa Rica, c'est un autre, mais bon, je trouve que son chant est pas mal non plus.
Voilà, ben merci beaucoup, vraiment, Caroline Gillet. Le 3 février pour les élections au Costa Rica.
C'est ça.
Et la prochaine étape?
Et la prochaine étape, c'est le 7 février. Je pense qu'on sera soit en Corée du Sud, soit au Timor oriental.
Eh ben écoutez, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sous les radars et Sébastien Logeni, là c'est une messe dans une église catholique allemande que l'on entend. Sébastien, l'église secouée par une initiative historique rendue publique aujourd'hui.
125 employés de l'église catholique allemande ont décidé de faire leur coming out. Ils et elles sont professeurs de religion, responsables communautaires, travailleurs sociaux, prêtres ou simples paroissiens engagés dans leur diocèse. Et ils ou elles sont gays, lesbiennes, bi ou trans. Un coming out sur un site internet créé pour l'occasion.
Voilà,
l'initiative a pris le nom de Out in Church et sera suivie ce soir d'un documentaire inédit à la télé allemande qui donne la parole, on les entend, à des dizaines de catholiques LGBT, des catholiques qui dissimulent leur orientation sexuelle, cachent leur partenaire dès qu'ils croisent un membre du clergé, vivent dans la peur d'être dénoncés. L'idée de cette campagne, c'est d'abord de faire pression pour réformer le droit du travail au sein de l'Église afin que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne soient plus des motifs de licenciement ciment, ce qui est encore le cas dans de nombreuses paroisses. Plus largement, cette démarche totalement nouvelle milite aussi pour plus de tolérance au sein de l'Église, la fin des déclarations diffamatoires sur l'homosexualité, la possibilité pour les couples homosexuels de pouvoir accéder au sacrement comme le mariage. Un débat loin d'être tranché, une note du Vatican de mars dernier et approuvée par le pape considère encore l'homosexualité, je cite, comme un péché.
L'affaire Peng Shuai refait surface en Australie.
Peng Shuai, c'est cette joueuse de tennis chinoise mystérieusement disparue des cours de tennis pendant 3 semaines en novembre dernier, après avoir accusé un haut responsable politique de son pays d'agression sexuelle. Eh bien, l'histoire revient via une vidéo qui fait le tour des réseaux depuis ce week-end.
So you'd like her to take the shirt off?
Nous sommes au tournoi de Melbourne, l'Open d'Australie, l'Open de tennis, déjà passablement bouleversé, on le sait, par la polémique Djokovic. À l'image, une simple spectatrice qui s'apprête à rentrer dans l'enceinte du tournoi, aussitôt interpellée par la sécurité, qui lui demande d'enlever son t-shirt. Alors, quelle est la raison de cette sanction vestimentaire? Eh bien, sur le t-shirt en question est inscrit au dos « Where is Peng Shuai? Où est Peng Shuai ?» La discussion dure quelques minutes et l'organisation du tournoi n'en démord pas, pas question de rentrer. Depuis la polémique enfle, dernière en date, l'ancienne joueuse Navratilova dénonce un comportement pathétique, dit-elle, de l'Australie, à qui elle reproche d'avoir capitulé devant la Chine. La fédération australienne se défend, nous n'autorisons pas les vêtements, banderoles ou pancartes commerciaux ou politiques. En revanche, ajoute la Fédé, la sécurité de Peng Shuai est notre principale priorité. Toujours est-il qu'à cette heure-ci, la situation de la joueuse reste largement énigmatique. Des vidéos la montrant depuis en public en Chine n'ont pas suffi à lever les doutes sur sa liberté de mouvement. La Fédération internationale a décidé d'interdire tous les tournois officiels en Chine et des militants envisagent déjà d'imprimer plus de 1000 t-shirts pour les distribuer à l'entrée de l'Open d'Australie aux spectateurs.
On termine, Sébastien, avec une destination qui fait rêver les anti-vax.
Zanzibar, ses plages paradisiaques et son absence totale de gestes barrières. Là-bas, pas question de masques ni de distanciation sociale et encore moins de vaccins. La Tanzanie s'est illustrée depuis le début de la pandémie comme l'un des pays les plus rétifs à toute stratégie sanitaire, au point qu'aujourd'hui, seul 1,5% de la population est vaccinée. On entend là le président tanzanien John Magufuli, mort l'an dernier peut-être du Covid, le président qui tenait un discours très tranché sur le vaccin. Pas bon du tout, selon lui, tous les vaccins ne sont pas destinés au bien de notre nation. Il est important que nous, les Tanzaniens, soyons très prudents. Des déclarations qui ravissent les anti-vax, au point qu'un groupe d'occidentaux sur l'application Telegram, composé essentiellement de Britanniques, est en train d'investir dans le pays pour racheter un domaine privé à Zanzibar. Donc, plage privée, station thermale, le tout avec affrètement de vols spéciaux, sans vaccin exigé à l'embarquement. Une communauté qui rêve de faire de l'île tanzanienne un paradis des antivax.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lougenie. On se retrouve demain, évidemment, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde. I pledge to be a president who seeks not
to divide. Avec Sébastien Pao. Bonsoir Sébastien. Rebonsoir, pardon Sébastien. L'Amérique de Biden, c'est encore une Amérique sur le pied de guerre avec l'Ukraine. Washington est toujours en plein bras de fer avec la Russie.
Oui, on se demande toujours si Poutine va mettre ou pas un pied de l'autre côté de la frontière. Est-ce que fera Biden si ça arrive? En attendant, le discours tenu par Washington est toujours le même. Les États-Unis et leurs alliés privilégient la voie diplomatique. C'est répété à Kiev, à Berlin, à Genève. Mais s'il y a la moindre incursion des troupes russes en Ukraine, eh bien, il y aura des conséquences et pas seulement économiques. On en est là pour l'instant. Poutine ne bouge pas. Blinken a donc vu son homologue Lavrov en fin de semaine dernière à Genève. Le président ukrainien ensuite, le chancelier allemand aussi. Le Wall Street Journal révèle que le patron de la CIA, Bill Burns, l'a précédé à Kiev et à Berlin. L'Amérique travaille avec ses alliés, nous dit-on. Biden a rendez-vous ce soir en visioconférence avec plusieurs dirigeants européens, dont Ursula von der Leyen, Boris Johnson et Emmanuel Macron. Le Sherpa du président français, d'ailleurs, Emmanuel Beaune, était à Washington en fin de semaine dernière. On l'a croisé. Le conseiller diplomatique de l'Élysée a dit à NPR, la radio publique américaine, qu'il avait notamment rencontré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Biden, qui lui a passé le week-end à Camp David. Et d'après CNN et le New York Times, il s'est fait présenter là-bas par Lloyd Austin, le secrétaire à la défense notamment, un plan qui prévoit d'envoyer 1 à 5 000 soldats US en Europe de l'Est et dans les pays baltes, avec des navires de guerre, des moyens aériens. Pour l'instant, Washington a seulement demandé aux familles de ces diplomates qui sont basés en Ukraine de quitter le pays et aux Américains d'éviter de se rendre en Russie.
Alors voilà pour le front ukrainien. Sébastien, il y a un autre combat en cours chez vous, c'est celui contre le Covid.
Oui, il y a aussi des opposants à la vaccination aux États-Unis, pas seulement à Zanzibar où on était il y a un instant. Et ils organisaient, ces opposants à la vaccination, une manifestation hier ici à Washington avec comme porte-parole un Kennedy, le fils de Robert Kennedy. Vous allez voir que les Kennedy ne se ressemblent pas tous.
What we're saying today is what I call turnkey totalitarianism.
Voilà, Bob Kennedy Jr. dénonce le totalitarisme clé en main que tentent d'imposer les États-Unis et le reste du monde à propos du virus. Il assure que les États totalitaires ont toujours tous tenté de faire ça, même l'Allemagne d'Hitler, dit-il. Et il explique qu'il est allé avec son père en Allemagne de l'Est en 62, qu'à cette époque aussi, on parvenait à fuir vers la Suisse en franchissant les Alpes. L'idée, c'est de rebooster, on l'a compris, les anti-vaccins. Ce discours-là d'un Kennedy a fait un tollé ici aux États-Unis.
Allez, hein, beaucoup plus léger, les dangers de la télé en direct pendant une alerte météo?
Oui, c'était sur une chaîne locale la semaine dernière, chaîne de télé. Le présentateur lance la journaliste qui est, elle, sur le terrain. On est à Dunbar, en Virginie occidentale. Et paf.
C'est pas drôle, hein, mais c'est drôle. Non, mais c'est dingue, elle a été renversée par une voiture pendant le direct.
C'est ça, elle a pas eu le temps de commencer à parler qu'elle s'est fait renverser par cette voiture qui a tourné un petit peu court. Alors ça se passe très lentement, hein, la voiture arrive très lentement. Tout de même, on la voit être poussée par la voiture, elle disparaît de l'écran, la caméra posée sur un pied bouge un petit peu, et puis on l'entend dire « Oh my God », que ce sont les aléas du direct, comme on dit en général dans ces cas-là, mais qu'elle va bien. On sent tout de même au son de sa voix qu'elle s'est faite un petit peu peur et on la comprend.
Alors attention, vous êtes, hein, Sébastien, au moment où vous nous parlez, on termine avec un sujet de passion aux États-Unis, bien sûr, le foot.
Exactement, enfin, week-end de rêve d'après les experts. Comment ?
Le faux foot.
Le faux foot, le foot américain, oui. C'est un week-end de rêve, disent les experts, avec des matchs qui se sont décidés tout le week-end dans les derniers instants. Et surtout, à 3 semaines du Super Bowl, patatras hier soir, l'équipe tenante du titre a perdu. Les Tampa Bay Buccaneers se sont inclinés 30-27 à domicile face aux Rams de Los Angeles. Ça veut dire que le légendaire quarterback Tom Brady ne décrochera pas un 8e titre. C'était le deuxième de suite, ça aurait été le deuxième de suite pour les Bucks. Il a 44 ans, Brady. Il est encore en contrat 1 an avec le club de Floride. Et il dit qu'il va réfléchir à ce qu'il fait désormais. En attendant, les Rams joueront donc les 49ers de San Francisco en demi-finale. Et s'ils gagnent, ils disputeront le Super Bowl où ça ? Dans leur stade, le SoFi Stadium d'Inglewood, c'est dans la banlieue de Los Angeles. Et c'est l'une des villes du rap de la West Coast. Ne me remerciez pas pour Snoop Dogg, j'adore. C'est la ville donc de Dr. Dre, de Kendrick Lamar, de Snoop Dogg, Los Angeles, que vous entendez à l'instant, c'est Snoop Dogg. C'est eux, tous les trois, qui feront le show à la mi-temps avec Mary J. Blige et Eminem. Une bande-annonce du spectacle a été diffusée il y a quelques jours. On les voit tous les 5 recevoir un texto et ils se mettent en route vers LA. Rendez-vous donc avec des millions de téléspectateurs. Ce sera le 13 février et ce sera diffusé sur NBC.
Voilà, ici. Vous y serez évidemment, Sébastien. Je crois que c'est la toute première fois qu'il n'y a que des rappeurs à la mi-temps. Puis vous reviendrez nous dire qui chante l'hymne national. Allez, merci.
Absolument, dès que j'ai l'info.
Ah, merci beaucoup, Sébastien.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, signé Jean Marfour. Jean-Marc, le groupe État islamique refait parler de lui en Syrie. Il a lancé en fin de semaine dernière une offensive d'envergure contre un camp de prisonniers où sont détenus nombre de djihadistes. Pour vous, cette résurgence de Daesh était malheureusement prévisible. Nous y avons notre part de responsabilité. C'est votre monde d'après.
Cette attaque a tout d'un cauchemar ressurgi du passé, mais ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Le groupe État islamique est de retour en Syrie. Cette attaque est d'une ampleur sans précédent depuis 3 ans et la chute du dernier bastion de Daesh à Baghouz. L'offensive a été lancée jeudi soir, elle avait été minutieusement préparée. Au moins une centaine de combattants djihadistes lourdement armés d'explosifs ont fait sauter des camions piégés autour du camp de prisonniers de Guayran à Asaké, cette zone du nord de la Syrie contrôlée par les forces kurdes. Au même moment, des détenus ont déclenché des incendies à l'intérieur du camp. Les forces kurdes ont ensuite riposté, les combats de rue n'ont pas cessé jusqu'à ce matin. Entre-temps, les affrontements ont fait plus de 150 morts. Ils ont déclenché l'exode de près de 50 000 civils. Et surtout, ils ont permis la fuite de dizaines, peut-être de centaines, on ne sait pas bien, de djihadistes incarcérés dans le camp, dont peut-être plusieurs anciens dirigeants de Daesh. Cet épisode vient confirmer, oui, la résurgence du groupe État islamique en Syrie depuis 18 mois. Il n'est plus une semaine sans une escarmouche ou un attentat, en particulier dans les zones de Deir ez-Zor près de l'Irak, et de plus en plus dans cette région kurde du Rojava au nord. C'est pas encore la reconstitution d'un territoire, hein, plutôt de la guérilla. Mais Daesh est bien de retour. Le mouvement compterait près de 10 000 combattants.
Et donc, Jean-Marc, l'Occident a une part de responsabilité là-dedans.
Oui, évidente, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a laissé tomber les Kurdes tout en leur refilant la patate chaude. Hein, pardonnez-moi la trivialité de l'expression. L'histoire de ces trois dernières années, c'est celle du désengagement occidental de la zone, en arguant de la disparition du groupe État islamique. Cette attitude a laissé le champ libre aux autres acteurs. Assad, le tortionnaire sorti indemne du conflit, la Russie, l'Iran, etc. Les Kurdes, seuls acteurs potentiellement démocratiques dans la région et donc alliés désignés de l'Occident, ont été laissés tout seuls pour faire le sale boulot, gérer les djihadistes vaincus. Une mission compliquée, vu que les populations arabes sunnites de la région ne voient pas d'un bon œil cette domination politique kurdes et sont donc tentés de fermer les yeux sur la résurgence des islamistes. Si encore les Kurdes avaient reçu quelque chose en contrepartie, mais nada, presque rien, personne ne reconnaît l'autonomie kurde dans la région. Donc les Kurdes se retrouvent avec les inconvénients sans les avantages. Résultat, ils sont non seulement dans l'incapacité de faire face à la situation, mais en plus ils n'ont pas la volonté de gérer d'éventuels procès contre les djihadistes retenus dans les camps. On peut les comprendre.
Et alors, tous ces camps de prisonniers dans la zone constituent un énorme problème.
Ouais, alors là, on touche du doigt la deuxième responsabilité occidentale. Ces camps Guayran dont on parlait, Alol, Roche, comptent des dizaines de milliers de prisonniers. On ne sait pas exactement là non plus combien, peut-être 60, 70 000, avec dans l'eau environ 10 000 djihadistes, dont au moins 2 000 étrangers de plus de 50 nationalités et aussi des milliers de femmes et d'enfants. Omar Waman nous avait emmené en reportage dans l'un d'eux il y a quelques mois. Ces camps souvent insalubres sont des fabriques à terroristes. Le sentiment d'injustice en l'absence de tout procès y est forcément croissant, en particulier chez des enfants qui sont en rien responsables de la situation. Donc c'est le moyen le plus sûr pour créer les extrémistes de demain. Donc on a du mal à comprendre pourquoi nombre de pays occidentaux, notamment la France, se refusent à rapatrier leurs ressortissants, soit pour les traduire en procès, soit pour les réinsérer dans le cas des enfants. Seulement 35 enfants rapatriés par la France, il en resterait plus de 200. Malgré les appels multiples de juristes, de psychiatres, d'humanitaires, rien n'est fait, au motif que ce serait mal vu par l'opinion publique française, on voit bien l'argument, mais ne rien faire, c'est, répétons-le, pousser ces enfants dans les bras des djihadistes, donc créer les conditions du retour du cauchemar. Parce que souvenons-nous, c'est comme ça que le groupe État islamique a démarré entre 2006 et 2014, par la radicalisation clandestine dans les prisons irakiennes à l'époque, puis par l'évasion des extrémistes des prisons. L'histoire menace donc de bégayer, or on a déjà payé pour voir et payé très cher.
Merci beaucoup Jean-Marc Four. Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde, le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Fille dans un tout petit instant, et puis vos questions dans le téléphone sonnent. Merci de partager votre soirée avec la nôtre.